France Culture, De Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Bon, voilà, on est arrivé sur la zone où en fait j'ai fait le constat que les légumes se trouvaient mieux ici. Et justement, bizarrement, il y a la haie qui entoure, vous voyez, cette zone de légumes. À chaque fois, j'ai beau faire mes rotations, les légumes qui se trouvent dans cet environnement-là poussent mieux. Les haies, c'est un refuge pour les insectes, pour les oiseaux. Même les crapauds, les grenouilles vont sous les feuilles. Les coccinelles, elles trouvent refuge au moment où commence à faire froid.
Car plus bas, il y a cette mare qui permet à ces fameuses grenouilles de se reproduire, mais aussi de gérer les eaux de ruissellement.
Seconde partie d'émission avec cet autre nouveau rendez-vous en cette rentrée, l'Escale Verte. Chaque semaine, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des coins, des secteurs en danger ou des lieux de paradis, des initiatives, des événements aussi. Et le tout avec des chercheurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction la Normandie et le Perche pour découvrir des haies pas comme les autres. Et vous venez d'entendre l'extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France 3 Normandie le 17 février 2017 avec un maraîcher bio dans le bocage normand au Crécy. Bonjour Joël aux enfants.
Bonjour.
Vous êtes artiste et avec des projets paysagers au cœur de votre travail, entre sculpture, peinture, création scénographique, on va découvrir ça avec vous. Tout d'abord, pourquoi cet intérêt pour la nature et l'évolution de l'environnement ?
Ça remonte à une histoire personnelle de vie, si vous laissez un parcours. Voilà, j'ai commencé à faire du jardinage quand j'avais peut-être 12-13 ans, des greffes, de la pépinière d'arbres, etc. Et j'essayais d'en planter à droite et à gauche. Je récupérais des petits plants que j'identifiais dans la nature et puis j'en faisais une pépinière. Et puis, dès que je remarquais quelque chose qui était un peu vide ou un peu sec ou un peu froid, eh bien, je m'empressais de planter ça. Jusqu'à 25 ans, je faisais du jardinage, des greffes et des plantations d'arbres de façon un peu comme ça, spontanée.
Et vous étiez où, vous dites ?
Une région, d'ailleurs, de culture, c'est-à-dire le maraîchage à Viroflay, près de Versailles. Donc, j'étais imprégné aussi par mes visites quasi hebdomadaires au parc de Versailles. Donc, ça détermine un certain nombre de choses.
Alors, vous nous emmenez aujourd'hui au contact des haies en Normandie et dans le Perche, puisque vous avez ce projet artistique de plantation de haies réalisé avec des agriculteurs de la région. Dites-nous en quoi ça consiste, quel est le principe ?
En fait, je vais au-devant de personnes qui peuvent être des agriculteurs bio, des associations, des collectivités ou des institutions. Je les appelle, je leur envoie un mail et je leur dis « Voilà, je vous propose, si vous aviez l'intention à terme de planter des haies, de vous les dessiner. » En alternant en fait les différentes essences compatibles localement avec une largeur de 10 mètres. C'est totalement arbitraire 10 mètres, mais c'est ni trop petit pour être un peu fractionné et invisible, ni trop grand pour être lassant et devenir peut-être une entrave à la biodiversité localement. Donc en fait c'est un segment qui correspond aussi à notre espace qui devient mondialement mesuré par Google, etc., par les satellites. Sauf que là, les haies alternent tous les 10 mètres des essences différentes. Et donc, ça fait un effet chamarré, un effet de rythme, qui va finalement assumer que les haies sont bel et bien un artefact. Une production humaine, une production de l'économie agricole et une production de l'histoire. Et comme nous sommes à un moment de l'histoire assez stratégique...
Avec un retour vers les haies, d'ailleurs.
Avec un retour vers les haies, mais quand même une perpétuation de l'arrachage, hein, parce que il y a des chiffres assez terribles, c'était 2 millions de kilomètres linéaires de haies il y a quelques décennies, et on en est à 700 000 avec la continuation de l'arrachage.
Ah oui, parce qu'il y a eu la mécanisation, l'agriculture extensive, voilà. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un retour dans certaines zones à une agriculture paysanne de terroir, quand même, qui joue son rôle.
Alors je vais justement au-devant de ces gens-là, dont j'admire énormément l'engagement. Voilà, moi je suis dans la ville, et puis je vais en vacances à la campagne, avec ma famille, et pour des raisons en fait logistiques, pratiques, on atterrissait régulièrement dans le Perche. C'est près de Paris, voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en allant de façon quasi systématique chez des gîtes plutôt bio, de producteurs bio, j'ai pu voir comment ils produisaient, j'ai pu voir comment ils soignaient non seulement leurs animaux ou leur sol, mais aussi leur paysage, et je trouve que c'est des gens qui s'apparentent beaucoup plus à des peintres finalement, des peintres de paysage, avec leur économie, avec leur famille, avec un sens aigu de leur responsabilité. Littéralement, je bave d'envie et d'admiration dans ces gens.
Et vous les avez embarqués dans votre projet.
Voilà. Et du coup, comme moi, je peux pas ou je ne me sens pas de me lancer comme ça, de me convertir et faire de l'apiculture ou cultiver des fruits, etc. Je rêve de le faire, mais finalement par délégation avec eux. Et je rencontre une multitude de cas... très varié. Il y a un maillage extraordinaire qui est en train de se faire d'actions, de gens très intéressants qui ont une vision, vraiment.
Mais si j'ai bien compris, vos haies proposent aussi des textes qu'on peut lire?
Alors, il y a un versant, je dirais, théorique de ces haies qui sont une installation que j'ai construite pour une exposition qui a commencé donc à l'écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière en octobre 2018. Pendant un an et demi, j'ai préparé cette exposition en me disant que je ne voulais pas faire une exposition explicative de mon projet. Je voulais pas mettre des grands tirages de mes projets faits sur Photoshop avant qu'on plante, etc. Je voulais créer une pièce artistique qui, en fait, invite les spectateurs à méditer, à rêvasser, à arpenter, à l'intérieur comme à l'extérieur, une haie ou des haies. Du coup, c'est le même nom, hein, ce sont des haies, elles aussi, mais elles sont, en fait, dans une charpente en bois et aluminium. C'est des tubes comme un barnum ou comme du camping, que j'ai bien pratiqué dans ma jeunesse. Et du coup, les toiles de tente, on va dire, ou ces toiles, prennent la forme rectangulaire d'une haie qui serait taillée. Et chacune de ces grandes bâches comporte des textes à l'intérieur de la haie, comme si on pouvait passer comme dans un couloir, ou à l'extérieur, de trois auteurs dont j'ai prélevé des extraits. Alors il y a Michelangelo Pistoletto, qui est un artiste de l'Arte Povera que j'admire beaucoup et avec qui je suis en contact. Et là, on va faire une exposition en octobre à Città dell'Arte et Fondazione Pistoletto à Biella en Italie, en octobre. Valéry Cabanès également. Je revenais d'un agriculteur qui voulait planter de mes haies, qui les a plantées d'ailleurs, que je me suis garé sur le côté pour noter. Et je voulais lire ce livre. Je l'ai demandé à ma médiathèque dans ma ville. Et puis, j'ai découvert un état des lieux d'une extrême clarté.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Valéry Cabanès est juriste et spécialiste du droit de la terre donc, et de l'écocide.
Voilà, c'est un mot écocide qui maintenant rentre dans le langage politique officiel. Mais reste à savoir si c'est suivi des faits. Mais effectivement, c'est un véritable écocide. Et du coup, je trouvais intéressant de citer ces deux extraits-là. Très agrandi, plus un troisième extrait, celui d'une amie philosophe, Margojata Grigilevich, qui enseigne dans une école d'art à Angoulême et qui travaille sur la question du jardin dans la pensée la plus reculée, la plus antique. Donc j'ai voulu travailler avec ces trois textes en me disant que c'était trois angles par lesquels prendre la question et du paysage et de la responsabilité humaine et de la notion de jardin, au sens où nous avons un rôle à jouer.
Ces haies, du coup, c'est une véritable création, une œuvre qui évolue forcément dans le temps. Elles retrouvent leurs vertus, on imagine, réduire le ruissellement, favoriser l'infiltration dans les sols, c'est aussi un brise-vent, ça abrite des écosystèmes extrêmement riches, les insectes, les oiseaux, etc. Est-ce que vous suivez l'évolution de votre œuvre?
Oui, là on était retourné cet été à l'endroit où on avait planté ce printemps. On a vu qu'il y avait une certaine mortalité, il y avait beaucoup d'herbes qu'il fallait faucher, qu'il fallait, etc. Donc oui, je suis autant que possible les réalisations, mais il faut voir qu'on vient de commencer. C'est-à-dire que c'est un projet qui a 5 ans de travail, de contact, mais après, pour obtenir les aides et vraiment avoir des agriculteurs ou des partenaires qui se trouvent disponibles là, à l'instant T, pour le faire vraiment au moment du rendez-vous des dates de plantation dans l'année, c'est pas évident. Certains ont un hangar à finir, d'autres ont une maladie dans leur lait ou des choses comme ça. Donc il y a des reports, mais je suis patient et en réalité, le projet essaime un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveaux agriculteurs ou des nouvelles associations ou des nouvelles villes maintenant qui s'intéressent au projet.
Et alors au-delà du projet, j'ai cru comprendre que vous travaillez aussi, Joël, aux enfants, sur des projets avec des collèges, des lycées, de la banlieue parisienne, notamment à Montrouge, Bagneux.
J'habite effectivement dans cette banlieue-là. Je fais en moyenne 1 kilomètre, moi, entre chez moi et mon lieu de travail. J'y vais en vélo. Et je travaille à temps partiel choisi pour pouvoir être artiste à côté et trouver de l'argent pour ces projets, par ces projets aussi. Mais par exemple, dans le collège où j'enseigne à Châtillon, il y a un projet que j'ai mené avec mes élèves. Donc je leur ai dit, cette année, nous allons travailler à partir du troisième paradis de Michelangelo Pistoletto, qui est ce signe dans lequel on a 3 lobes, un peu à l'imitation d'un signe infini, mais il y en a 3 au lieu de 2, dans lequel un des lobes représente la nature intouchée par l'homme, la vie, pas insouciante, hein, très dure et très difficile des premiers hommes. Ensuite, le deuxième, en face, à l'opposé, se trouve être la technologie qui détruit la nature. Et il nous faut, dit Pistoletto, inventer un troisième paradis, c'est-à-dire l'usage raisonné, raisonnable, intelligent et responsable des techniques pour vivre encore sur cette terre. Et en fait, il laisse libre de droit ce signe à toutes les initiatives artistiques ou sociales qui mettent en avant ces objectifs-là, ce qui a été le cas pour le collège.
Merci, Joël aux enfants.
Merci beaucoup.